Nuages d'Hélène. Art. Création. Culture. Promenade. Rencontre. Entretien.
Cette émission Nuages d'Hélène, j'ai le grand plaisir de recevoir le compositeur Philippe Leroux, compositeur contemporain à la longue carrière déjà, avec beaucoup de productions et d'écritures de pièces instrumentales, vocales, de différents formats, mais c'est son tout premier opéra qu'il présente, une production engênante opéra autour de l'œuvre de Paul Claudel, L'annonce faite à Marie. L'annonce faite à Marie se tient à partir de ce dimanche 9 octobre à 16h au Théâtre Gralin. Il y aura des représentations le mardi 11, jeudi 13 et vendredi 14. À Angers en novembre le samedi 19 et à l'Opéra de Rennes en novembre également, dimanche 6, mardi 8 et mercredi 9 novembre. L'annonce faite à Marie, un opéra d'après l'œuvre de Claudel, donc mise en scène par Célie Pote, et dont la composition est assurée par Philippe Leroux. Philippe Leroux que j'ai eu la chance de rencontrer le jeudi 15 septembre dernier. C'est pour un projet plus vaste aussi, de construire en compagnie d'Engénante Opéra et avec Jet FM, une série d'entretiens sous forme de podcast autour de la musique et du son, avec quelques-uns, quelques-unes des invités de cette saison 22-23 d'Engénante Opéra. On en reparlera. L'occasion était donc donnée de rencontrer Philippe Leroux et de partager avec lui quelques éléments sonores, et notamment autour de ce travail très particulier réalisé pour ce tout premier opéra, L'annonce faite à Marie. Un travail particulier autour de la voix et du traitement de celle-ci par l'IRCAM et un certain nombre de procédés qui viennent perturber les habitudes de ce que l'on pourrait trouver dans un opéra dit classique. On questionne donc l'opéra, l'écriture et la voix en compagnie du compositeur Philippe Leroux.
Pour moi, qu'il y ait des notes ou qu'il y ait des bruits, tout peut faire partie de la musique à partir du moment où ça devient, on l'utilise comme un langage. Mais je me souviens quand même que quand j'étais petit, justement, je comprenais pas la musique purement instrumentale. C'est-à-dire que pour moi, je comprenais pas de la musique où il y avait pas de voix, en fait. Ça me paraissait une chose vraiment très abstraite et très très étrange. Par la suite, j'y suis venu, j'ai écrit aussi pas mal de musique instrumentale, mais en fait, je suis resté quand même avec cette idée-là que la voix, c'était le principe moteur, quoi. C'était tout simplement parce que la voix s'est connectée directement au corps. Ça fait à la fois partie de nous, c'est notre propre instrument, c'est le corps notre propre instrument quand on chante. Hein. Donc c'est quelque chose qui est à la fois très intime et puis en même temps qui nous porte vers l'extérieur, c'est notre lien au monde aussi. Enfin bon, voilà. Surtout en musique contemporaine, il y a deux, puis alors dans le chant encore plus, mais il y a des courants, par exemple, où on ne fait que du bruit. Où il y a des courants où on élimine absolument tout bruit, justement. Mais moi, j'ai toujours pensé que dans n'importe quel son, il y avait à la fois de la hauteur et du bruit. C'est-à-dire que dans n'importe quel son, il y a des fréquences. Et puis, il y a des parties bruiteuses. On sait que même en acoustique, les transitoires, premières transitoires d'un son, c'est majoritairement quelque chose de bruiteux. Les transitoires d'extinction aussi. Donc, en fait, tout son contient du bruit. Alors, vouloir éliminer le bruit, quelque part, c'est totalement artificiel, aussi bien que de vouloir éliminer les hauteurs de notes. Voilà.
Ça m'amène une réflexion qui peut-être n'a rien à voir, mais sur la question du silence qui est souvent évoquée comme une sorte d'idéal un peu édénique et qui, a priori, n'existe pas. Le silence n'existe pas.
Alors, par rapport au silence, souvent on pense que le silence, il est dans les sons, c'est-à-dire que il y a tout un courant aussi dans la musique nouvelle qui considère qu'il doit y avoir très peu de sons, chaque son doit être extrêmement économe, pour introduire du silence à l'intérieur du son. Mais moi, je pense en fait qu'on peut être très bavard avec très peu de sons, comme on peut être très silencieux avec beaucoup de sons. Parce qu'en fait, le silence qui est important, ce n'est pas celui qui est dans le son ou non, c'est le silence qu'on crée chez l'auditeur, en fait. C'est ça, le vrai silence. C'est la stupeur, la stupeur, cette espèce de, ou l'émerveillement, enfin, quand ça marche, hein, une émotion, quelque chose de très fort qui nous rend silencieux, parce que d'un seul coup, on est happé, interpellé par quelque chose qui est d'autre que nous-mêmes, en fait.
C'est par la voix que vous êtes allé aux études, au conservatoire, vers la musique classique. Est-ce que vous chantiez ?
Alors non, en fait non. C'est plus par les instruments, puisque j'ai commencé à étudier le piano, puis la guitare. Je suis revenu à la voix plus tard, en fait, quand j'avais 23, 24 ans, où j'ai recommencé à écrire avec voix, et de plus en plus. Et puis j'ai voulu explorer vraiment la voix, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur des pièces où on comprend très bien le texte, j'ai travaillé sur des pièces où le texte est complètement explosé et on se sert du matériau du texte comme plutôt pour comme des sons en fait, hein, matériaux phonétiques. J'ai travaillé sur des textes où le tout ce qui accompagnait était très figuratif, c'est-à-dire techniquement on appelle ça des figuralismes, hein, c'est-à-dire des sons ou des mouvements de sons en fait qui suivent le sens du texte. Enfin bon, j'ai exploré beaucoup de facettes de la voix, y compris avec humour aussi. Par exemple, j'ai une pièce qui s'appelle Ma belle si tu voulais, sur une chanson du 16e ou du 18e, je sais plus, qui joue vraiment avec les phonèmes, et ça peut y avoir des moments tout à fait drôles. Donc voilà, et puis après, bon, bah, petit à petit, j'ai pu commencer à synthétiser un petit peu toutes ces expériences sur la voix dans quelques pièces un peu de référence pour moi, comme une pièce qui s'appelle Voix Rex, par exemple, où on retrouve un peu tout ça, y compris la voix, y compris parce qu'en fait, oui, je vais un peu vite, mais le travail avec la voix, c'est aussi très souvent, pas toujours, mais très souvent un rapport au texte, en fait. Voilà, à moins de faire sans texte, j'ai aussi fait explorer ça. Mais bon, la voix, c'est quand même principalement le langage, quoi. Donc, la parole, les mots, le texte, etc. Donc, travailler la voix, c'est aussi... Les différentes façons de travailler la voix impliquent aussi une différente façon de travailler avec le texte. Voilà, donc là, par exemple, à l'opéra, je dirais que c'est... je crois que là, on est dans un travail un peu de synthèse, là, avec toutes sortes d'approches de la voix. Voilà.
Lionel, retirez-vous, il fait nuit pleine encore, et nous sommes seuls ici tous les deux. Et vous savez que je ne suis pas un homme tellement sûr. Le diable m'a saisi tout d'un coup.
Vous m'avez trouvé plus forte que lui.
Lionel, je suis ici plus dangereux qu'un homme.
Un extrait d'une maquette réalisée pour L'annonce faite à Marie, premier opéra, composé par Philippe Leroux et qui se joue à partir de ce dimanche 9 octobre au Théâtre Gralin, une production Engênante Opéra. On continue cette conversation avec Philippe Leroux, le compositeur, enregistré le jeudi 15 septembre dernier.
Une musique, pour moi, c'est un corps, déjà en soi. C'est-à-dire, c'est comme un organisme. Ça a ses propres lois. Dans une musique, je dirais, il y a du sang qui circule, il y a de l'électricité nerveuse enfin, qui circule, il y a des os, il y a de la chair. Et c'est vraiment... J'ai une image d'une composition, d'une œuvre, d'une pièce, comme étant vraiment organique, comme étant un corps. Alors après... Quand j'ai commencé vraiment à comprendre que j'avais envie de travailler justement sous forme d'éléments qui ne soient pas coupés en morceaux, sous forme de gestes, évidemment, là, je me suis intéressé au rapport entre le geste sonore et puis le geste physique. toutes les activités proprioceptives du corps, etc. Et donc, oui, bien sûr, la question du geste physique est super importante. À tel point que la prochaine pièce que je vais écrire, après l'opéra d'ailleurs, ben c'est un mélange en fait de gestes sonores et de gestes physiques des musiciens, justement, pour une pièce un peu didactique là, pour montrer vraiment à quel point on peut avoir, par exemple, le glissement d'un son sur un plan purement sonore, puis qui s'arrête, et puis on a juste un geste de musicien qui continue le même, et puis le son qui reprend et qui termine ce geste, par exemple. Et dans notre perception, on le relie comme étant un seul élément. Donc oui, et puis j'ai travaillé beaucoup sur l'écriture notamment. Donc là encore, là par exemple, je travaillais sur l'écriture de Claudel, hein, c'est-à-dire que je suis parti d'une lettre qu'il a écrite. Je ne suis pas parti d'une lettre, je suis parti en fait du manuscrit de l'annonce. Et en fait, on a travaillé à l'IRCAM pas mal là-dessus, c'est-à-dire qu'à décoder en fait, en fonction du graphisme des lettres, à déduire de ça des profils mélodiques, des rythmes, des vitesses, des mouvements dans l'espace, des choses comme ça. Donc, question physique très importante.
Sans trop schématiser, mais puisque vous disiez que la voix amène souvent le rapport au texte, on pourrait penser que c'est ça la narration. Or, j'ai l'impression à vous écouter que dans vos pièces, et peut-être qu'il y a des exceptions, c'est le geste qui fait la narration.
Alors oui, tout à fait. Dans les pièces, je dirais strictement, je n'ai pas envie de dire musical, parce qu'un opéra, c'est musical aussi, mais disons... hors contexte opératique, où là, la narration... moi, me paraît très importante et il m'a paru essentiel de la conserver. Mais sinon, effectivement, c'est vrai, ce qui fait la narration, c'est plus la logique gestuelle, en fait, des sons, en fait, des mouvements des sons. Voilà. C'est-à-dire que c'est une narration, c'est aussi une narration, mais ce n'est pas une narration rationnelle, ce n'est pas une narration liée au langage, en fait. C'est une narration gestuelle, par exemple... j'ai une pièce qui s'appelle L'unique trait de pinceau, qui est un concerto pour saxophone et orchestre. Et en fait, toute la forme de la pièce est un unique geste, comme je m'étais basé sur les gestes de peintres chinois. Donc c'est un unique geste qui va du début à la fin de la pièce, où on part vraiment dans le très grave, et progressivement on monte comme ça. Il se passe beaucoup de choses, hein, c'est pas juste... une chose, mais le grand geste formel, la grande forme de la pièce, c'est ça. C'est un geste d'un pinceau très précis qui a été médité longtemps avant d'être tracé. Voilà.
Il y a l'idée d'une continuité, en tout cas d'absence de rupture.
Alors ça, oui, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire que surtout à partir du moment où on quitte la musique tonale, c'est-à-dire la musique la plupart de la musique qu'on entend, classique ou de jazz, bien que ce puisse être modal aussi, mais enfin bon, bref. Dès qu'on commence à travailler hors de la tonalité, il faut trouver des façons de créer une logique au niveau de l'attente de la personne qui écoute, c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait justement la musique tonale ? C'est qu'on a principalement un type d'accord qui prépare une tension, on a un type d'accord qui font entendre une tension, et on a un type d'accord qui résolve cette tension ou qui la diffère. Voilà. Et tout fonctionne à partir de ce schéma-là. Mais des tensions qu'on prépare et qu'on diffère ou qu'on résout, on peut les avoir de multiples manières. On n'est pas obligé de le faire avec des accords. Donc... mais ce qui compte, c'est effectivement de travailler sur l'idée d'une continuité. Alors ça, pour ça aussi, le geste est formidable, parce que nos gestes physiques, en fait, ils sont toujours continus. Après, on peut les découper, mais... si on a un mouvement de son qui est continu, et puis, par exemple, qu'on l'arrête en plein milieu, on va créer chez l'auditeur une attente de ce qui arrive derrière. Donc là, il y a tout un travail très intéressant à faire de jouer sur cette attente, de la, de la, de la donner à entendre ou non. Non, on attend encore un petit peu, puis on introduit une deuxième idée, une deuxième continuité. Et puis chez moi, ça va assez loin, ça va jusqu'à faire des tresses de 3 ou 4 types d'activités ensemble qui sont toutes continues, mais dans lesquelles on retire des moments. Ce qui fait que, en fait, chaque brin de la tresse a une logique absolument de continuité totale, mais comme on retire des moments dans la continuité, ça crée des surprises, mais en même temps, ça reste toujours cohérent parce que la continuité est là. Enfin, vous voyez, on fait le saut. Donc voilà, bon, il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine-là.
Adieu, Violaine, j'emporte votre anneau. Et de ce petit cercle, je vais faire une semence d'or. Entre les parois de la justice, je contiendrai l'or du matin. Et maintenant, adieu, le soleil est levé, je devrais déjà être loin. Est-ce tout ce que vous avez à me donner pour elle? Un peu d'or retiré de votre doigt?
Adieu, Pierre.
Adieu.
C'est l'émission Nuages d'Ailet sur Jet FM et c'est ici un extrait d'une maquette réalisée pour L'annonce faite à Marie, opéra qui est actuellement en cours de production pour Angers Nantes Opéra et dont la première se tient ce dimanche 9 octobre autour de l'œuvre de Paul Claudel, et c'est avec le compositeur de cet opéra, Philippe Leroux, que je converse, un enregistrement du 15 septembre dernier.
Oui, alors là, les chanteurs, outre le bel canto, je leur demande de travailler sur des voix saturées par moment, sur effectivement des borborythmes, des enchaînements très rapides de phonèmes, sur des effets de chevrotement glottique, comme on trouve dans certains chants japonais. Ce dont je me suis aperçu, c'est qu'en fait, la voix, c'était vraiment quelque chose d'infini. C'est-à-dire que il n'y avait pas de limite, en fait, à l'invention de ce que peut faire une voix. C'est tellement connecté à notre intériorité que c'est incroyablement riche. Vous voyez, si on prend un instrument, bon, le piano, bon, on joue sur les touches, éventuellement on peut jouer à l'intérieur du piano, mais il y a un moment, on va finir par tourner en rond, quoi. On va pouvoir inventer des milliards de techniques. Mais la voix, la moindre inflexion vocale, la moindre inflexion sonore dans la voix peut avoir des conséquences inouïes. Et donc c'est ça. Donc je suis à l'écoute toujours de nouvelles choses que j'entends, mais bon, je suis pas un collectionneur.
Et le traitement de la voix, parce que là il est question de traitement avec le travail de l'IRCAM sur l'annonce faite à Marie. Qu'est-ce que ça dit de plus? Qu'est-ce que ça pourrait dire de plus de la voix et des possibilités, cet ajout, cette augmentation?
Ce qui m'intéressait le plus, c'est l'aspect microphonique. C'est-à-dire déjà, dès qu'on utilise un microphone, c'est comme un espèce de comme un microscope, en fait, mais du son. Donc on grossit le son, c'est-à-dire qu'on va d'abord commencer à entendre des choses qu'on n'entend jamais parce qu'elle est... Quand quelqu'un nous parle, on est à un mètre de cette personne, au moins, ou à plus. Donc là, si on est près d'un micro, on va entendre des micro-détails dans le son qui sont nouveaux, qui révèlent comme de nouveaux paramètres de la voix, et voire de nouveaux paramètres musicaux. Et puis voilà, après, bon, bah, c'est ça, on peut utiliser ça pour générer de nouveaux types de musicalité, un peu. Hein. C'est-à-dire que on va s'intéresser, par exemple, je sais pas, au grain de la voix. Si je fais Si je fais, par exemple, enfin, je sais pas, je suis un peu loin de votre micro, je me mets exprès loin. Si je fais... et si je fais... le résultat est complètement différent, ce n'est même plus le même son. Et puis là, d'un seul coup, on va entendre... c'est comme un monde dans lequel on rentrerait à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment... C'est ça, c'est un microscope. Donc, c'est un monde extraordinaire qui s'ouvre pour la vocalité, en fait. Donc là, évidemment, on est très loin du bel canto. Mais moi, je pense qu'on peut, on peut travailler sur les deux. Il suffit de bien doser. À certains moments, on va plus travailler vers ça. Et là, alors, dans l'opéra, dès le départ, comme c'est une pièce de Claudel qui est une sorte d'autobiographie indirecte, il a travaillé quand même 56 ans sur cette pièce. Il en a fait 4 versions. Ça s'est étalé sur une très longue période de sa vie. Et donc, pour marquer cet aspect autobiographique, en fait, j'ai eu l'idée dès le départ d'utiliser sa voix pour qu'il intervienne dans son propre texte, en fait, soit comme s'il était en train de l'écrire par moment, soit comme s'il était en train de le commenter ou de commenter ce que faisaient les chanteurs. Donc, il apparaît à différents moments. Et comme on a très peu d'enregistrements de lui... qui sont d'extrêmement mauvaise qualité parce qu'il était très vieux, que c'était dans les années 50, donc l'enregistrement n'était pas, c'était pas encore très, très sophistiqué, les qualités d'enregistrement, et qu'en plus, c'était un paysan, il avait une élocution difficile, bref. Donc je me suis dit que ça pouvait être vraiment intéressant de resynthétiser sa voix, d'essayer de retrouver, en fait, de lui faire dire des choses qu'il n'avait jamais dites, par une synthèse. Alors quand je dis des choses qu'il n'avait jamais dites, en fait, c'est des choses qu'il n'a jamais dites, mais qu'il a écrites. Je ne fais pas dire des choses, je ne fais absolument rien dire qu'il n'aurait pas écrit. Hein. Donc on lui fait dire uniquement des choses qui appartiennent au texte, en fait. Mais pour arriver à refaire une synthèse qui soit vraiment très bonne de la voix d'un vieillard qui a un accent paysan et dans un enregistrement très mauvais et avec peu d'enregistrements, ça demandait vraiment une technologie assez sophistiquée. Hein. Donc à l'IRCAM, ils ont travaillé sur des réseaux de neurones, en fait, à qui on confie l'apprentissage de la voix à partir des échantillons qu'on a. Et donc, qui resynthétise, et ça marche plutôt pas mal.
Ça devait être assez émouvant, les premiers mots entendus.
Oui, parce qu'on n'était pas du tout sûr que ça allait marcher, hein. Pas du tout. Hein. Donc, à tel point qu'on avait même imaginé que si ça ne marchait pas, on demanderait à un comédien de lire le texte, et puis après, on essaierait de faire de la synthèse croisée avec le peu d'enregistrement qu'on a de Claudel. Ce qui aurait été moins satisfaisant. Là c'est quand même très bien. Alors, il y a des tout petits moments où on entend quelques artefacts, mais c'est vraiment peu. Et puis, tout le monde reconnaît la voix, il n'y a aucun problème. C'est vraiment,
Puisque vous parliez de ce rapport à l'autobiographie via Claudel, et aussi ce qu'on dit souvent de la voix, qu'elle est quand même une intimité, c'est une intimité, même si elle est portée fort dans le bel canto, qu'est-ce que diraient les pièces que vous avez écrites et votre rapport à la voix de votre propre autobiographie? Est-ce que si on faisait la collection, ça dit quelque chose de l'homme que vous êtes?
Waouh! Oui, ça dit beaucoup de choses. Énormément de choses. Là, je ne veux pas entrer dans une auto-analyse de moi-même. Hein. Mais oui, ça dit beaucoup de choses. Évidemment, dans le choix des textes sur lesquels j'ai travaillé, mais dans la façon de les travailler, dans les techniques vocales que j'utilise, dans les mouvements de son. Je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à aller chercher, mais bon, c'est pas moi qui le ferai. Hein. Et, d'ailleurs, j'ai assez moyennement l'envie que quelqu'un le fasse un jour, mais bon, on ne peut pas empêcher les choses de se faire. Hein.
Peut-être.
À midi, quand on mange,
et peut-être.
un autre extrait des maquettes réalisées par Philippe Leroux pour L'annonce faite à Marie, opéra d'après Paul Claudel, son tout premier opéra, qui est produit par Angers Nantes Opéra et qui s'ouvre ce dimanche 9 octobre au Théâtre Gralin.
Le rapport à la poésie, moi je suis plutôt quelqu'un proche de la poésie. J'ai travaillé sur des niveaux vocal, j'ai travaillé sur des textes, des poèmes d'un Québécois, Fernand Ouellet, de Jean Grosjean, d'Edmond Jabès. J'ai travaillé beaucoup sur la poésie. C'est quelque chose qui me parle beaucoup. Donc, voilà. Alors, après, c'est aussi ça qui m'a motivé quand j'ai lu cette pièce de théâtre de Claudel, c'est-à-dire que c'est à la fois de la poésie et à la fois du théâtre. Voilà. Donc on a vraiment un alliage extraordinaire entre la dramaturgie, donc avec des personnages pleins de passion, une articulation dramatique qui est vraiment extrêmement bien faite, de la jalousie, de l'amour, enfin toutes sortes de choses qui à mon avis sont importantes pour faire un opéra, qui sont essentielles, je dirais. Enfin, ouais, bon. Question, on peut en discuter, mais et puis en même temps, voilà un langage extrêmement poétique avec une très grande richesse d'images visuelles et sonores, parce que c'est aussi les sons employés par Claudel sont magnifiques, et le rythme qu'il emploie, parce que c'est très particulier le vers claudelien, parce qu'en fait il sépare souvent ça la façon dont il enchaîne les phrases et les vers, son désaccord avec la structure du sens de la phrase, en fait. Et donc, il recompose musicalement lui-même, en fait, déjà, le sens des phrases. Et donc, ça, c'est évidemment extrêmement intéressant. Il va même, des fois, jusqu'à couper un mot en deux. Pas dans l'annonce, il ne le fait pas, mais dans le partage du midi, comme ça, j'ai plus en tête le mot, mais... Il demande aux acteurs de s'arrêter au milieu du mot, en fait, et puis de finir le mot plus tard. Donc, c'est quand même assez fort d'introduire du silence comme ça, de casser complètement le rythme de la sémantique rationnelle, on va dire, du mot, pour introduire, justement, un autre type de sens. Donc, voilà, oui, la poésie, c'est très, très intéressant. Ouais, pour moi, c'est un moteur.
Et ce langage de Claudel, cette manière de travailler que vous venez de décrire, c'est une aubaine pour le compositeur que vous êtes, ou c'est une confrontation intéressante, c'est un jeu, on fait avec, on fait contre, on tourne autour?
C'est tout ça à la fois. C'est une aubaine, parce que ça propose de multiples pistes, en fait. Et puis, effectivement, parfois, il faut faire contre, parce que le flux musical a besoin d'autre chose à un certain moment. Je pense que ça, c'est valable avec tous les textes. Parce que de toute façon, un texte, il n'a pas besoin de musique. Il est sa propre musique. Ça n'aurait aucun intérêt de vouloir musicaliser un texte tel qu'il est déjà musical. Enfin, donc, à mon avis, c'est vraiment autre chose qui se passe. On est plus dans l'ordre du commentaire ou de la résonance, peut-être de la résonance plus. C'est-à-dire comment un texte résonne en nous, qu'est-ce qu'il met en action. Et donc ça veut dire que, en fonction de ces résonances, on peut être amené à changer la structure du texte, sans le dénaturer. Mais... J'en ai eu des propositions d'opéra au cours de ma vie, et j'ai jamais dit oui, parce qu'il pouvait y avoir des textes fabuleux. Par exemple, je me souviens d'un texte de Coltès qu'on m'avait proposé. Vraiment, pour faire un opéra, c'était parfait. Mais il manquait des ingrédients pour moi. C'est-à-dire que dans ce texte de Claudel, j'ai trouvé tout ce qui m'intéressait.
Vous dites avoir eu plusieurs propositions d'opéra au fur et à mesure des années et avoir attendu. Est-ce que vous-même, vous aviez des envies d'opéra ?
Ah oui, moi je sais que je veux écrire un opéra. Je me souviens très bien avoir dit à un ami avec qui on faisait de la musique, quand j'avais justement 17 ans dans ces eaux-là, qui de toute façon, moi je vais écrire un opéra. Je voulais le faire. Après, il fallait attendre. J'avais beaucoup de choses à apprendre quand même. Et puis, après il fallait vraiment que j'ai la rencontre, parce que je savais aussi c'était dans une certaine mesure tellement important pour moi de faire ça. Comme un idéal un peu, que je savais que j'allais y consacrer une part très importante de ma vie, quoi. Alors 3 ans, c'est pas si long que ça, mais c'est quand même... Là, je parle des 3 ans d'écriture, mais avant, il y a eu aussi la préparation, et puis ça bouleverse beaucoup de choses dans ma vie quand même. Donc je voulais pas... J'avais besoin que chaque jour, chaque matin, quand j'allais me réveiller et que j'allais voir que j'avais une journée de 8 heures là, en face d'une partition, que je voulais être sûr que j'avais une bonne raison de le faire et que pas seulement faire un opéra, pas seulement gagner de l'argent ou je ne sais quoi, ou être connu ou je ne sais quoi, mais que j'étais dans un accord profond, quoi, et que ça allait me nourrir, en fait, tout simplement, peut-être ça, voilà, que ça allait me nourrir.
Je rebondis sur cette dernière notion. Vous êtes très organisé, vos journées durent un certain nombre d'heures, commencent à une certaine heure, s'arrêtent à une certaine heure. Il faut une discipline pour éviter le débordement, j'imagine.
Il faut une discipline, oui. Parce que c'est assez monumental. Là, on est quand même... C'est un opéra qui dure 2h25. C'est énormément de travail. Et puis, tout nous pousse à ne pas faire, en fait. Je veux dire, c'est tellement facile de dire, j'ai le temps, voilà. Et après, c'est la qualité de la musique qui s'en ressent. Bon, après, ça dépend des gens aussi. Il y a des gens qui sont beaucoup plus dans la spontanéité. Mais dans ce style de musique, c'est difficile parce qu'il y a vraiment... Il y a une part artisanale qui est extrêmement laborieuse, quand même, faire l'électronique qui soit intéressante, c'est pas juste fiche des sons comme ça, pareil pour les instruments, pareil pour les voix. Donc moi j'avais besoin d'être dans un accord profond, c'est ça, de sentir qu'en fait que j'allais être nourri aussi par cette expérience-là, par le texte lui-même, par les personnages en fait. Et ils sont assez extraordinaires les personnages de Claudel parce qu'ils sont très ambigu. Je ne sais pas comment la plupart du temps cette pièce est montée de façon peut-être un peu manichéenne. On a la bonne, la mauvaise. Voilà, mais en fait, les personnages sont hyper ambigus. C'est-à-dire que celle qui est, entre guillemets, la sainte, qui va finir par ressusciter l'enfant, en fait, elle est dans un désir trouble avec un homme qui est lépreux, dont elle sait qu'elle est lépreux, qu'il est lépreux. Elle l'embrasse. Pourquoi est-ce qu'elle embrasse un lépreux? Etc. Alors qu'elle va se marier. Et qu'en plus, elle est foncièrement amoureuse de l'homme qui va devenir son mari. L'autre, la noire, entre guillemets, Mara. Donc, c'est la méchante, c'est la jalouse. Elle tue sa sœur à la fin. Enfin, voilà. Mais en même temps, c'est la seule qui a vraiment la foi, puisque c'est la seule qui croit que sa sœur peut faire cette action de ressusciter l'enfant. Donc, ce sont des personnages très, très riches et qui m'amènent aussi à me questionner sur moi-même. Mais évidemment, si, c'est quand même un questionnement sur moi-même. Je suis où, moi? Je suis qui? Je suis dans tout ça? Est-ce que je suis ça, ça, un peu ça, un peu ça? J'ai besoin de ça.
Là, on est donc à quelques jours d'un tournant assez décisif dans votre carrière de compositeur, parce que la première, j'imagine que vous l'attendez avec une certaine... impatience.
Oui, j'attends la première. J'attends de découvrir l'opéra parce que jusqu'à là, on fait des petits bouts par-ci par-là, on n'a pas encore les lumières, la vidéo n'est pas calée, les chanteurs sont encore en train d'apprendre leur rôle. Enfin bon, on est dans quelque chose d'extrêmement approximatif. Et puis surtout, on n'a pas d'enchaînement pour le moment. Donc déjà, la première pour moi, enfin, ou même la générale avant, mais ça va être déjà de découvrir en fait l'opéra, quoi. Première chose. Et puis après, ben, c'est aussi comment ça va être reçu. C'est un bon moment, quoi, de communion avec le public, avec... voilà, ça va être un moment très... avec beaucoup d'émotions. Ce qui me fait un peu peur, d'ailleurs, parce que quand je suis trop ému, je n'arrive plus à me lever. Ça m'est arrivé une fois, je ne pouvais même plus aller saluer, donc bon, j'espère que ça n'arrivera pas.
Ou alors c'est bon signe.
Oui, c'est bon signe, mais après, les chanteurs, tout le monde se dit « Oh, il n'a pas aimé ce qu'on a fait ou... !» Donc, il faut éviter ça, si c'est possible.
Voilà. On guettera ça.
Oui, si vous ne me voyez pas apparaître sur scène, peut-être qu'ils ne m'appelleront pas, ceci dit, mais si jamais ils m'appellent et que je n'arrive pas, vous saurez que c'est à cause de ça.
Sur ChatFM, dans cette émission Nuages d'Élay, c'était un entretien avec Philippe Leroux enregistré le 15 septembre dernier. Ce grand compositeur signe son tout premier opéra autour de l'œuvre de Paul Claudel, l'annonce faite à Marie sur une mise en scène de Célie Pote. La première est au Théâtre Gralin, c'est une production en gênant opéra, et c'est ce dimanche 9 octobre, il y aura d'autres dates ensuite, à Nantes, à Angers et à Rennes, notamment dans le courant du mois de novembre. Grand merci à Philippe Leroux pour sa disponibilité et pour m'avoir transmis ces quelques maquettes que nous avons écoutées, qui ne rendent pas justice évidemment au travail sonore qui est actuellement en cours de production et que vous pourrez découvrir à partir de dimanche. Dans un instant, c'est Florilège sur JetFM. Nuages d'Élay revient la semaine prochaine, peu ou prou après 18h, à la suite du Sonolab. Demain à 18h, c'est l'émission Mégaphone d'Alexandra. Bonne soirée.